il y avait une petite, une assez importante minorité même de bouddhistes, surtout népalais. Et il a commencé à organiser des cours d'anglais pour eux. Il a trouvé un endroit où on pouvait faire des pujas, où il pouvait donner un peu d'instructions sur le bouddhisme, parce que pour eux, le bouddhisme, ce n'était que des rituels qu'ils ne comprenaient pas non plus. Et il est resté à Kalimpong jusqu'en 65. Et très important est que Kalimpong, c'était une ville de trois fois rien, mais c'était le côté indien de la voie de caravane vers Lhasa, vers le Tibet. Donc jusqu'en 59, il y avait toujours des va-et-vient de commerçants tibétains. Mais en 59, avec l'invasion du Tibet par les Chinois, il y a eu une masse énorme de réfugiés qui sont arrivés là, entre autres des réfugiés de Lama. Mais bien avant cela, il avait déjà rencontré un lama tibétain qui résidait presque sur place. Et c'est avec lui est-ce que tu vois ici le photo avec tous les et avec lui il avait un rapport lui a donné vraiment toute une série d'instructions. C'était pratiquement son maître tibétain. Par lui il a appris le bouddhisme tibétain vraiment à fond, et comme son nom était Dardo, et comme lui était aussi un homme à esprit ouvert, il n'a pas appris mécaniquement le bouddhisme tibétain. Il a compris l'essence. Voilà Yadish Kashyap, son maître de Theravada et de Pali, et Dardo Rinpoche qui était avec lequel il a travaillé ensemble pendant une bonne douzaine d'années. Pendant qu'il était là, il ne faisait pas seulement des choses du travail social, pour ainsi dire, mais il étudiait aussi. Et une des choses qui est sortie de ça, déjà, avant, je dois dire qu'il a été enfin ordonné full moine, bhikkhu, en 53. Ça lui a pris 4 ou 5 années avant de trouver assez de moines ensemble pour être ordonné. C'était là le problème. Et c'est quelque chose que je trouve important pour moi. Il a été ordonné le 24 novembre, le même jour que de mon ordination publique. Donc. Je ne sais pas si ça a une signification, mais je trouve quand même... sûrement. Donc il s'était mis à étudier tout le temps, et en 56, l'anniversaire, le 2500e anniversaire de la naissance du Bouddha, selon la chronologie Theravadine, il a publié un livre gros comme ça, qui s'appelle A Survey of Buddhism. Imaginez-vous un jeune homme, pas encore 30 ans, qui a écrit sans aucune formation, ou presque pas de formation systématique, qui a écrit un des livres de base du bouddhisme contemporain. C'est aussi, j'ai un lien très fort avec ce livre aussi, c'est le premier que j'ai lu de lui. Je sais encore les circonstances. J'étais tout nouveau en politique, en politique verte. J'étais en chemin vers un congrès des Verts allemands, et quand j'arrivais là, comme représentant officiel des Verts belges, et quand j'arrivais là, ils étaient en train de se disputer tellement qu'ils ne voyaient même pas que j'étais là. Et je me suis cantonné dans ma chambre d'hôtel et j'ai lu ce livre-là. Je crois que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour le mouvement vert à ce moment-là. Il était aussi rédacteur en chef d'un journal de la Mahabodhi Society, qui était à ce moment-là l'association bouddhiste la plus influente au monde. Donc il faisait du travail intellectuel tout le temps. Et à un certain moment, il était devenu, comment dirais-je, un personnage très important dans le bouddhisme tibétain. On l'appelait déjà à ce moment-là Imli Gelong Rinpoche, le moine anglais Rinpoche, mais Rinpoche c'est le titre d'un lama réincarné. Donc il semble qu'on était déjà en train d'essayer de trouver de quel lama il était la réincarnation. Donc il avait vraiment un statut dans ce monde-là très très élevé. Et c'est important de comprendre pour ce qui suit. Parce qu'en 65, on l'a, voilà, a survey of Buddhism. J'en vais parler plus loin parce que ça vient aussi dans la base de ces idées.